France Inter.
Bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Marie, bonsoir Marine et bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, aux armes citoyennes.
Voilà ce qu'a chanté Catherine Ringer ce matin lors du scellement du droit à l'IVG dans la Constitution. Une Marseillaise aux paroles féministes pour un 8 mars revendicatif dans toute la France. On entendra des femmes âgées qui, elles aussi, luttent pour leurs droits et on parlera inégalité salariale. Les femmes toujours payées 15% de moins que les hommes en moyenne.
Effectivement, on en parlera avec l'économiste Rachel Silvera, invitée de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Une bonne idée, mais trop tardive. Réaction d'un responsable de l'ONU à la création d'un corridor humanitaire pour Gaza. 6 mois de prison avec sursis pour le commissaire qui a ordonné la charge de policier qui a blessé une gilet jaune en 2019. Et puis bientôt une agence pour gérer l'intelligence artificielle dans l'armée française.
Après ce journal, une semaine en France avec Emmanuelle Piette, médecin, présidente du collectif féministe contre le viol et coprésidente de la commission santé du HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. À 19h, ce sera le journal de Corinne Audouin. À 19h20, hommage à Ikara Toriyama, sans doute le plus connu des auteurs de manga qui vient de mourir. Si vous faites partie des fans de la série Dragon Ball ou des autres séries d'ailleurs, n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
France Inter. C'est donc l'image et surtout le son du jour. Catherine Ringer qui réinterprète la Marseillaise devant le président de la République.
Aux armes, citoyens, citoyennes, formons nos bataillons, marchons et chantons cette loi pure dans la Constitution.
Voilà, version ovationnée, on l'entend fièrement féministe en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes et des minorités de genre. Catherine Ringer interprétait l'hymne national à l'occasion de la cérémonie de scellement de la Constitution qui garantit désormais le droit à l'avortement. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Vous étiez sur place ce matin, place Vendôme à Paris, devant le ministère de la Justice. On a vu Emmanuel Macron esquisser un grand sourire au moment de cette Marseillaise revisitée. Était-il au courant ?
Eh bien non, Catherine Ringer n'a pas transmis hier à la présidence ses nouvelles paroles, mais on s'en doutait, confie l'entourage d'Emmanuel Macron, et on ne le redoutait pas. Dans la confidence, il y avait tout de même le cœur de l'armée française avec lequel elle a répété et donc interprété a cappella cette Marseillaise. Voilà ce qu'Emmanuel Macron en a pensé à la sortie.
Elle était originale, elle était libre. Écoutez, moi j'ai trouvé que l'idée qui m'a été proposée, que ce soit Catherine Ringer qui chante, et elle l'a fait en liberté. Elle était non conventionnelle.
Emmanuel Macron a voulu échanger quelques mots avec elle à sa descente de l'estrade, mais d'un geste de la main, elle a revendiqué sa liberté pour se réinstaller au milieu du public. C'est un conseiller de l'Élysée qui a eu cette idée de la faire venir, comme ils avaient fait appel à la soprano Barbara Hendricks pour la panthéonisation de Simone Veil. Cela marque davantage qu'un discours, glisse une petite main. Pour le bicentenaire de la Révolution, les équipes de François Mitterrand avaient fait venir la star de l'opéra Jessie Norman. Elle n'avait pas retouché au texte cette fois-ci, mais tout autant marqué les esprits.
Maxence Lambrecq du service politique de France Inter dans les coulisses donc de cette Marseillaise. Cette journée du 8 mars rendue plus solennelle que d'ordinaire, on l'a entendu, aussi marquée par des actes anti-IVG à La Roche-sur-Yon. Un buste de Simone Veil a été vandalisé, la mairie porte plainte. À Lille, des tags comme IVG égale mort ont été découverts ce matin sur les murs du planning familial. Un 8 mars à l'occasion duquel les petits frères des pauvres ont choisi de donner la parole aux femmes âgées. L'association publie un recueil de témoignages aujourd'hui des femmes qui ont entre 57 et 110 ans et Hugo Ossiou a pu rencontrer plusieurs d'entre elles.
Raymonde se prépare à se rendre à son atelier jardinage. À 80 ans, elle peine un peu à marcher à cause d'un problème de jambe, mais elle se sent en forme. Le plus dur pour elle, c'est le regard des autres.
Ils sont pas tendres avec les mémés. Hein. Il y en a beaucoup, ils infantilisent. La dame, elle s'est permis d'attacher mon manteau. Ah, faut vous couvrir ? Je suis quand même pas si bête. Mais je crois que les hommes, c'est un peu mieux. Les messieurs, ils ont tous les droits. Hein. C'est pas juste.
De son côté, Sherazade n'a que 59 ans. Elle n'est pas vraiment une personne âgée, mais elle ne se sent représentée nulle part, ni au cinéma, ni dans les magazines.
Un homme, en général, quand il va vieillir, on va dire
Oh, il est beau, il a des cheveux blancs. Une femme, c'est... Oh là là, mais regarde toutes les rides qu'elle a. Elle a pris cher, on regarde tout de suite. Les hommes sont plus favorisés.
Et ce genre de témoignages abondent. Les petits frères des pauvres en ont compilé plus d'une centaine. Yann Lanier est délégué général de l'association.
J'ai surtout été marqué par le nombre de femmes très âgées qui se sont prêtées à l'exercice. Et avec des messages extrêmement militants. Beaucoup de sororité. Nous avons mis à jour un certain nombre de sujets que nous avons transformés en plateformes revendicatives. Donc c'est maintenant cela qu'on va pousser.
Parmi les revendications de ces femmes âgées, on retrouve l'obligation d'inscrire l'âge des mannequins dans les magazines ou reconnaître officiellement l'âgisme comme une discrimination. Elles seront envoyées à plusieurs ministres dans la journée.
Reportage signé Hugo Ossiou.
Et partout en France aujourd'hui, des femmes de tous les âges manifestent.
Et rassemblement dans plus de 200 villes, 1000 personnes à Lille ou à Dijon, 2500 à Bordeaux, partout des cortèges violets, couleurs du féminisme, pancartes et slogans parfois pour soutenir les femmes à travers le monde, les Afghanes qui subissent la dictature patriarcale des talibans ou les victimes israéliennes de violences sexuelles lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Une des revendications les plus fortes dans ces manifestations, c'est toujours l'égalité salariale, à temps de travail égal. Les femmes gagnent toujours en moyenne 15% de moins que les hommes, selon l'INSEE. Pourtant, il existe un index de l'égalité salariale depuis 6 ans dans les entreprises.
Effectivement, un index publié chaque année à l'occasion du 8 mars qui semble stagner cette année et qui n'a pas vraiment fait la preuve de son efficacité jusque-là. D'où la volonté du gouvernement de l'améliorer. Bonsoir Rachel Silvera.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, spécialiste des questions d'égalité professionnelle. Alors ça fait plus de 50 ans que l'égalité salariale entre les hommes et les femmes figure dans la loi, mais dans la vraie vie on en est loin, 15% d'écart, on l'a entendu. Pourquoi cet index de l'égalité professionnelle ne reflète-t-il pas la réalité et que faudrait-il faire pour y remédier ?
Alors déjà, je voudrais dire que l'écart, il est plus élevé que ça, parce que si on prend en compte le temps de travail et le temps partiel, on est plutôt autour d'un quart en moins, hein, 23,5% exactement cette année. Alors l'index, il avait un beau rôle, puisqu'il devait révéler ces inégalités et proposer aux employeurs de trouver des remèdes. Or, il se trouve que pour cette année, les notes sont excellentes. On pourrait se réjouir de voir que, en moyenne, les entreprises ont obtenu 88 sur 100 points, alors que les inégalités sont stagnent, elles ne baissent vraiment pas.
Mais alors, qu'est-ce qu'elles font les entreprises, Rachel Silvera ? Elles maquillent les résultats ?
Alors non, c'est plus compliqué que ça et plus subtil, heureusement. Hein, elles sont dans les clous. C'est que la méthode de calcul est à la main de l'employeur. Et ça nous laisse quand même une marge de réaction. Et puis, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été mis en place par le gouvernement. Par exemple, 5% de l'écart est d'entrée de jeu écarté. Hein, donc, il y a un certain nombre de subtilités qui fait que, au total, eh bien, les employeurs ont des bonnes notes. Et surtout, le constat du rapport qui vient de sortir du HCE, c'est de montrer que seulement un quart des salariés sont couverts aujourd'hui par cet index. Donc, il faut vraiment le réviser pour permettre de mieux rendre compte des inégalités et couvrir l'ensemble des entreprises et des salariés.
Ça veut dire qu'il faut changer de méthode. Gabriel Attal réfléchit à la publication d'une fourchette précise de salaire, même dans les offres d'emploi. C'est une bonne idée ou pas, ça ?
Alors, il va bien falloir parler de transparence des salaires, puisqu'il y a une nouvelle directive européenne qui a été adoptée en juin dernier. Donc, on a 3 ans pour la transposer. Et dans cette directive, il est prévu justement qu'il y ait une vraie transparence sur les salaires. Donc, un des changements dans l'index, ça sera d'avoir des indicateurs plus précis sur ces écarts, justement de supprimer ce seuil, hein, d'être dans la réalité, et puis d'intégrer des éléments qui n'y sont pas, comme le temps partiel, comme la question des bas salaires, et un sujet énorme qui mériterait plus de quelques instants pour en parler, c'est le fait de pouvoir comparer des emplois de valeur égale. Parce que la loi de 72 dont vous parliez au début de notre entretien, eh bien, elle prévoit un salaire égal pour un travail égal, mais aussi pour un travail de valeur égale. Et ça, jusqu'à présent, les entreprises, l'index, ne l'appliquent pas du tout. Et donc, on devrait aller vers une démarche qui prévoirait, dans l'index, de comparer des emplois différents, occupés par les femmes et par les hommes, pour voir s'il y a bien égalité de rémunération, jusque dans des métiers différents.
Vaste chantier, si je vous entends bien.
Oui.
En attendant, les syndicats, notamment la CFDT, la CGT, demandent des sanctions contre les entreprises qui ne respectent pas l'égalité. Il faudra en passer par là, d'après vous ?
Alors, elles existent déjà, mais quand on voit qu'il n'y a même pas 7% des entreprises qui n'ont pas eu la note attendue de 75%, et qu'ensuite elles ont 3 ans pour rectifier le tir, on voit bien que jusqu'à présent, les sanctions ne sont pas assez menaçantes, dirais-je, pour jouer leur rôle de mettre les entreprises dans le droit chemin. Et puis, là encore une fois, l'index est trop facile finalement. C'est vraiment, je me rappelle d'un DRH qui avait dit sur votre antenne, un 8 mars, il faut vraiment être idiot pour ne pas avoir une bonne note à l'index. Donc voilà, oui, la sanction, c'est une partie de la réponse, mais encore faut-il qu'il y ait des moyens du côté de l'inspection du travail de pouvoir contrôler, regarder de près comment sont faits ces index. Une des propositions de notre rapport du HCE, c'est justement qu'ils soient calculés par les pouvoirs publics à partir de données centralisées, ce qui éviterait tous ces biais.
Merci beaucoup Rachel Silvera, économiste du genre. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter et allez boire un thé avec un petit peu de miel peut-être pour soigner votre voix.
L'actualité ce soir, c'est aussi le déploiement de l'aide humanitaire qui s'amplifie à Gaza où la famine est de plus en plus présente. Mais il a aussi fait des victimes aujourd'hui, 5 morts et 10 blessés après la chute d'une cargaison larguée par avion dont le parachute ne s'est visiblement pas ouvert. La voie aérienne choisie parce qu'au sol, l'armée israélienne ne laisse entrer l'aide qu'au compte-gouttes, d'où la création d'un corridor humanitaire entre Chypre et l'enclave palestinienne annoncée par l'Union européenne avec l'aide des États-Unis qui promettent de construire un port à Gaza. Mais pour le coordinateur de l'aide humanitaire de l'ONU basé à Jérusalem, Andrea De Domenico, cette décision est trop tardive.
Déjà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a presque 500 000 de personnes qui sont à côté d'une situation de famine. Et donc, 2 mois, c'est pas un temps acceptable pour arrêter cette trajectoire concernante par rapport à la situation nutritionnelle de la population de Gaza. Et de toute façon, même quand il sera ouvert, on aura quand même le problème de la distribution interne qui reste tout à résoudre, sachant qu'il n'y a pas de route. Toutes les routes ont été détruites et donc c'est toujours compliqué les mouvements au sein de la bande de Gaza.
Est-ce qu'il faudrait ouvrir un accès au nord, notamment, pour rapprocher les camions des besoins ?
Absolument. C'est quelque chose que nous, on demande depuis des semaines, 2 mois. Plusieurs points d'entrée pour atteindre la population qui est en état de besoin.
Andrea De Domenico qui répondait à Étienne Monin. Les bilans s'enchaînent et toujours avec eux des nouvelles aussi préoccupantes sur le front du climat. Les États-Unis ont connu leur hiver le plus chaud jamais enregistré, annonce l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ce soir. Plus 3,1 degrés en moyenne durant les mois de décembre, janvier et février par rapport aux températures normales de saison. En France, vigilance orange, pluie et inondations pour l'Ardèche, le Var et les Alpes-Maritimes. Jusqu'à 250 mm de pluie attendue en quelques heures. Demain, la météo complète à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
L'armée française prend le virage de l'intelligence artificielle.
Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, annonce la création d'une agence dédiée en juillet prochain. Plan détaillé ce matin à l'École Polytechnique. Bonsoir Stéphane Jourdain.
Bonsoir.
L'objectif affiché, c'est de faire de l'armée française un acteur majeur dans ce domaine.
Oui, soit on prend date tout de suite, soit on décroche, justifie le ministre de la Défense qui débloque 300 millions par an, 2 milliards d'ici 2030. De quoi s'acheter ce qui sera le plus grand supercalculateur dédié à l'IA classifié d'Europe. L'ambition, que la France soit numéro 1 en Europe de l'IA militaire et dans le top 3 mondial. Laure de Roussy-Rochegonde, chercheuse à l'IFRI, salue l'effort.
Il faut quand même garder à l'esprit qu'à titre de comparaison, l'agence américaine bénéficie d'un budget de 3 milliards de dollars par an. Donc on n'est quand même pas dans les mêmes proportions. Néanmoins, pour la France, ça reste considérable.
Effort qui passe par le recrutement d'un ancien du labo d'IA de Google, Bertrand Rompierre, pour diriger cette agence. Une pointure, souligne la chercheuse spécialiste de l'intelligence artificielle militaire.
Le choix de ce dirigeant pour cette nouvelle agence montre une volonté d'envoyer un message aux jeunes talents de l'IA en France. C'est pas un hasard non plus que cette annonce soit faite à Polytechnique. Il s'agit de retenir les talents qui sont absolument cruciaux dans la course à l'intelligence artificielle.
Alors, le recrutement est capital, on l'a compris Stéphane, mais concrètement, en quoi l'IA peut aider les militaires ?
Alors, deux exemples. Un drone doté d'une IA pourra continuer sa mission une fois qu'il a perdu le contact avec son pilote. Et les sous-mariniers chargés de reconnaître la signature acoustique d'un sonar ennemi, vous savez ce qu'on appelle les fameuses oreilles d'or, seront bien plus efficaces assistées d'une intelligence artificielle qui reconnaît ces fréquences. L'IA réinterroge tous les équipements, du Rafale au sous-marin nucléaire jusqu'au drone miniature, dit le ministre.
Stéphane Jourdain, chef du service numérique de France Inter. C'était il y a 3 ans, un féminicide en pleine rue. Chaïnès Daoud mourait brûlée vive à Mérignac, en Gironde. Son ex-mari sera bien jugé pour assassinat, annonce du parquet de Bordeaux ce soir. Cet homme qui avait déjà été condamné et incarcéré pour violence conjugale.
Un commissaire condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Rabah Souchi, condamné aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir ordonné une charge de policier. C'est l'affaire Geneviève Leguet, cette militante d'attaque gravement blessée à Nice en 2019 lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Elle avait à l'époque 73 ans. Aurélien Tirard.
Le tribunal décide que la charge ordonnée par le commissaire Rabah Souchi n'était ni proportionnée, ni justifiée, ni nécessaire. Une charge lors de laquelle l'ancienne porte-parole du mouvement Attaque a souffert d'un traumatisme crânien et de multiples fractures. Le tribunal suit ainsi les réquisitions du procureur. Geneviève Leguet s'est exprimée face à ses soutiens cet après-midi devant le tribunal.
6 mois de prison avec sursis, c'est déjà ça. Si j'ai voulu faire ce procès, c'est parce que je voulais aussi qu'il serve à toutes les victimes de violences policières. Il faut arrêter, il faut que ça cesse.
Son avocat maître Arrière Halimi salue une décision fondamentale parce qu'il est rare, dit-il, de voir un commissaire divisionnaire condamné en tant que donneur d'ordre. De son côté, le policier qui a également assisté au jugement reste combatif, selon son avocat Laurent Franck Liénard.
C'est une décision sans surprise pour nous, puisque nous avions vu dans quel état d'esprit cette affaire avait été appréhendée. Évidemment, l'appel a été enregistré et nous allons débattre de ces questions devant la cour d'appel avec une approche plus conforme au droit.
Le tribunal décide par ailleurs de ne pas inscrire sur son casier judiciaire cette condamnation, ce qui veut dire qu'il peut continuer à être policier, actuellement en poste à la police municipale de Nice.
Aurélien Tirard, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris sur la Seine commencera à 19h30 le vendredi 26 juillet. C'est plus tôt qu'à Tokyo et Rio, les deux éditions précédentes. Ça avait commencé là à 21h, heure locale, mais c'est pour profiter au maximum de la lumière naturelle, précise le président de Paris 2024, Tony Estanguet.
Son nom et ses dessins sont ce soir encore à la une de tous les médias au Japon.
Akira Toriyama, le père de Dragon Ball, dont on a appris la mort ce matin à 68 ans. Plus largement, c'est dans le monde entier qu'on lui rend hommage ce soir, tellement sa saga de manga est populaire. Mais Toriyama, ce n'est pas que Sangoku et ses amis, c'est aussi, entre autres, les jeux vidéo Dragon Quest, vendus à plusieurs millions d'exemplaires à chaque édition. La première date de 1986. Daniel Andreyev est journaliste, fan et auteur du livre « La légende de Dragon Quest ».
Le génie Toriyama, il est dans le design des monstres. Mais le propre de ces monstres-là, c'est qu'il regarde toujours le joueur droit devant lui, droit dans les yeux. Toriyama est quelqu'un qui savait, en une illustration, faire une puissance d'évocation assez grande, que ce soit l'aventure, mais que ce soit aussi le voyage. Enfin, c'est toujours une invitation au voyage dans ses illustrations de Dragon Quest. Un héros qui part à l'aventure, mais on voit tout de suite, on voit dans son regard, on voit dans le décor derrière que il a traversé des épreuves. Comparé à Dragon Ball, il y a une de ses qualités, c'est que ça nous rappelait à quel point c'était un grand illustrateur avant d'être un raconteur d'histoire. Je pense que c'est un génie de l'illustration, c'est un génie pictural. Les illustrations qu'il a faites, je pense que c'est parmi les plus belles choses qu'on ait faites dans un jeu vidéo tout court.
Daniel Andreyev au micro Inter de Steven Goyer. Si vous aussi, Akira Toriyama, a compté dans votre vie, appelez-nous. 01 45 24 7000, puisque c'est le thème du téléphone sonne à partir de 19h20. Et sur franceinter.fr, vous retrouvez un article sur ces 5 créations qui, justement, ne sont pas Dragon Ball. Un mot de football pour vous dire que c'est la 25e journée de Ligue 1 qui commence ce soir. Nice, qui reste sur 5 matchs sans victoire en championnat, reçoit Montpellier 16e et donc pour le moment barragiste. C'est à 21h. Et puis en Formule 1, la séance de qualification est en cours en Arabie Saoudite pour le Grand Prix qui aura lieu demain. Carlos Sainz pour Ferrari n'y participe pas puisqu'on a appris cet après-midi qu'il était forfait pour cause d'appendicite. Il a été opéré sur place. L'Espagnol est remplacé par le pilote de réserve Oliver Bearman qui a 18 ans seulement, va donc courir son premier Grand Prix de Formule 1 et qui plus est dans une Ferrari, ce n'est pas rien.
Ah oui, l'appendicite, ça n'attend pas.
Effectivement, il vaut mieux y aller tout de suite.
Ça ne rigole pas. C'était le journal de Kevin Dufraîche à qui on souhaite un bon week-end. On prend des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Attention aux pluies sur le sud-est.
Oui, petite accalmie attendue cette nuit, mais nouvel épisode pour demain, avec le matin des pluies sur l'ouest et en Méditerranée, jusqu'à la région parisienne et à la Bourgogne l'après-midi. Sur le sud-est, le vent sera encore fort, avec des pluies très marquées, notamment sur les Cévennes, puis sur la Côte d'Azur jusqu'à dimanche matin. Une vigilance orange a été déclenchée sur l'Ardèche, le Var, les Alpes-Maritimes. On attend de forts cumuls de pluie, jusqu'à 150 à 250 mm sur les Cévennes ardéchoises, 100 à 150 sur le Var et les Alpes-Maritimes. On attend également de bonnes quantités de neige dès 1200 mètres, avec un risque d'avalanche important et de fortes vagues sur le littoral.
Un peu de soleil quand même ?
Oui, le matin entre le nord de la Seine et le nord-est, quelques éclaircies sur l'ouest l'après-midi, mais avec des averses et puis des températures qui ne changeront pas beaucoup, 10 à 17 degrés attendus. Dimanche, ce sera plus variable, avec un ciel avec des éclaircies, des averses, surtout sur la Nouvelle-Aquitaine et de la basse vallée du Rhône à la Côte d'Azur.
Merci Élodie Calac de Météo France et à tout à l'heure.